Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Est un vilain défaut.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire.
RTL.
L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle.
Jusqu'à 22h.
À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a 115 ans à peine, nos campagnes changeaient complètement de visage. Plus de routes, plus de machines, plus de confort. À l'occasion du Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris en ce moment, on a eu envie de vous plonger dans cette France d'avant qui explique celle d'aujourd'hui avec l'une de nos sociétaires.
Vous êtes une habituée.
Troisième fois, vous les notez. J'espère que vous passez du bon temps avec nous. Vous êtes historienne, Rosine Lagier. On est toujours ravis de vous accueillir.
Nous, on passe du bon temps avec vous. C'est pour ça qu'on vous réinvite, que les choses soient claires.
Vous savez raconter des histoires et c'est ce qu'on aime dans la curiosité. Alors, au début du XXe siècle, on vit plus à la campagne qu'à la ville, c'est ça ?
Oui, on vit plus à la campagne qu'à la ville, puisqu'on compte à peu près 9 personnes sur 10 en milieu rural et une personne sur 2 qui cultivait la terre. Alors, pas forcément paysan, mais une main-d'œuvre paysanne.
Et les villages sont bien desservis par les routes ? On est encore un peu coupé des villes, un peu coupé du monde ?
Mais ça commence. En 1900, il y a déjà eu une amélioration avec la Troisième République. Tout a démarré vers 1860 à peu près. Donc on va dire que 40% des routes nationales, des chemins vicinaux ont été essentiellement développé entre 1870 et 1900.
Les villages dont on va parler empruntent leur nom à leur environnement. Alors on a par exemple Fougeray, Sauzet, Plombières. Ça fait référence à quoi ces noms ?
Alors ces noms correspondaient, on cherchait tout simplement dans la faune, la flore locale ou l'activité. Le nom était donné par cette faune, cette flore. Donc on a Fougeray, c'était la présence sans doute de beaucoup de fougères. Sauzet, c'était l'osiericulture, les joncs, l'osier, les saules. Plombières, c'est un petit peu ambigu. Plombières est une petite station thermale des Vosges. Les Romains classaient les stations thermales en 6 catégories. Ils pensaient qu'il y avait les eaux chargées en or, les eaux chargées en cuivre, les eaux chargées en fer et les eaux chargées en plomb, puisque plombières s'appelait plombire. Or, en fait, il est fort probable, d'après le recoupement de plusieurs historiens, que le nom vienne plutôt de plomb qui signifiait eau et ber qui signifiait chaude. Effectivement, Plombière est une station thermale d'eau chaude.
Ah ben voilà une explication passionnante. Rosine Lagier, on imagine que la Première Guerre mondiale va bouleverser la donne dans les campagnes.
La Première Guerre mondiale a bouleversé bien des domaines. Déjà, il y a eu un certain anéantissement de la campagne qui a été bombardée, les villages démolis. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la majorité de la population était une population rurale, une population attachée à la terre, qui cultivait la terre. Et vu le nombre de tués et de blessés, il est bien évident qu'après la Première Guerre mondiale, il manquait vraiment de bras pour continuer l'exploitation agricole.
Donc il y a moins de main d'œuvre. Il faut compenser. Comment on va compenser ?
Alors on va compenser depuis déjà un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, on avait commencé à travailler les moteurs, l'arrivée des moteurs. Donc il va y avoir une explosion de modernisation avec l'arrivée de tracteurs, l'arrivée de faucheuses, de motoculteurs, de moissonneuses batteuses, les treuils, les élévateurs.
Les années 20 ou les années d'immédiate après-guerre.
Tout ça s'est fait déjà au moment de la guerre, ouais. Puisqu'au moment de la guerre, on a déjà commencé à remplacer beaucoup de chevaux qui étaient tués aussi par des camions, par de la motorisation. Donc ça n'a fait en fait, la modernisation s'est petit à petit améliorée et donc le moteur a... contribuer à remplacer la main d'œuvre. Et puis l'enseignement agricole aussi, il faut pas oublier, qui a été lancé à partir de 1860, mais qui a pris vraiment son essor vers 1890. Et l'enseignement agricole a contribué aussi à améliorer la condition et l'agriculture.
Rosine Lagier, alors avec ses premières machines, ses premiers moteurs, ce sont les premiers accidents aussi. Et dans votre livre « Visage d'une France rurale » aux éditions Ouest-France, on découvre la une du petit journal. Il est daté du 23 août 1908. Il y a un horrible accident au champ. Que s'est-il passé ?
Eh bien, c'est une petite fille qui sans doute jouait en bordure du champ, et avec cette nouvelle mécanisation qui arrivait, c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait, si on peut dire, le compas dans l'œil pour diriger les machines, et donc cette petite fille s'est tout simplement faite happer par la faneuse et s'est fait déchiqueter par la faneuse. Et c'est une époque aussi où
ça a marqué l'opinion de l'époque, ça, cet accident-là.
Non.
Parce que ça fait la une du petit journal, mais ça marque pas l'opinion.
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Quand on regarde d'ailleurs toute la collection du petit journal, c'est effarant, parce que ce soit en première de couverture ou en quatrième de couverture, on ne voit que des accidents. En fait, la vie était tellement difficile, les conditions de vie étaient tellement difficiles, que vie, mort, accident étaient liés. Et puis, il faut pas oublier qu'il y avait eu la guerre de 1870, la guerre de 1914. Donc, on était habitué quand même, malheureusement, à cette mort, au décès. Donc, les familles étaient nombreuses, on perdait un enfant. Bon, je ne veux pas dire que la détresse des parents était nulle, hein, bien loin de là. Mais disons que l'approche n'était pas du tout celle que nous avons maintenant par rapport à la mort, aux accidents.
Mmh. Alors, en ce moment, vous pouvez visiter le salon de l'agriculture à Paris, Porte de Versailles, la plus grande ferme de France. C'est le cliché qu'on entend chaque année. Ben, nous, on vous emmène dans les fermes, mais dans les années 1900, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
On voyage dans le temps avec l'historienne Rosine Lagier. On se promène dans les campagnes françaises du début du XXe siècle. Alors c'est une période de transition et de transformation de la vie rurale. Les machines facilitent le travail dans les champs. Et quand les paysans rentrent à la ferme, ils bénéficient d'un petit peu plus de confort. Avant cette mutation, Rosine Lagier, c'était comment dans les fermes ?
L'habitat était très très sobre. On mettait sous le même toit les animaux et les gens. Souvent d'ailleurs pratiquement dans les mêmes pièces, sans parois pour séparer. La chaleur animale, voilà, réchauffant les habitants. Il a fallu attendre 1881 une loi qui interdise aux gens et aux animaux de vivre dans les mêmes pièces. Donc il a fallu mettre des parois pour séparer l'habitat animal, l'habitat des personnes.
C'est pour une question d'hygiène, Rosine Lagier ?
Alors c'est pour une question d'hygiène, pour empêcher déjà les odeurs, les mouches. Bon, vous imaginez bien les poules qui venaient aussi sur les tables, une volaille et un continente. Donc je ne vous explique pas plus l'environnement. Mais oui. Enfin, disons que
on a moins envie de petit déjeuner. D'un coup.
Voilà. Donc, 1881, on a commencé à mettre des lois pour séparer les animaux des gens.
Mais c'est étonnant qu'il ait fallu une loi, finalement. Parce que ce que vous nous décrivez, c'est le bon sens de.
Non, il a fallu.
Il a fallu l'imposer.
Il a fallu imposer, voilà, exactement.
Mais le confort, ça arrive comment, en fait ? C'est quoi les premiers. Je trouve pas le mot, mais c'est pas grave.
Hein. Éléments de confort.
Voilà, par exemple. Merci, Sidonie. Dans ces fermes du début du XXe.
Alors déjà, c'est ouvrir un petit peu plus l'habitat. Ouvrir les fenêtres pour que le soleil et l'air rentrent. Éloigner les animaux, donc pour éviter les mouches, les odeurs, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec les moyens de communication, les gens avaient un petit peu plus la possibilité d'aller à la ville, et la ville commençait à se moderniser. Donc, et les catalogues des grands magasins commençaient à venir dans les villages, et ont commencé à acheter sur catalogue. Les grands magasins du Louvre, les grands magasins de Paris ont connu vraiment leur embellie aux alentours de 1890.
C'est du mobilier qu'on achète.
On trouvait tout sur ces catalogues. C'était vraiment la grande surface qui venait au devant des ruraux. Donc on trouvait absolument de tout, du mobilier, des vêtements, de la lingerie, des batteries de cuisine, des verres, des assiettes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'usage du couteau et de la fourchette ne sont devenus quotidiens que vers 1900, hein, dans certaines fermes surtout.
Alors dans les campagnes en 1900, les hommes vivent un peu mieux dans les fermes, mais aussi les animaux. Dans quelles conditions sont-ils abrités, ces animaux ?
Alors les animaux commencent à être dans des écuries aussi, que l'on demande plus aérées, plus spacieuses, avec des toits, des plafonds au-dessus des bêtes, de façon à ce qu'ils ne reçoivent pas la poussière, de la paille, du foin dans les yeux. Et il faut dire aussi qu'en demandant cette hygiène, c'était pour éviter les maladies. Il ne faut pas oublier qu'en 1900, il y avait encore à peu près 5 000, 8 000 vaches qui mouraient dans les campagnes de maladies. Donc on a imposé aussi les pédiluves, on a imposé la vaccination. Donc petit à petit, se sont mises en route des réglementations, que ce soit pour les gens, que ce soit pour les animaux, qui ont contribué à améliorer la qualité de vie, la qualité de l'alimentation, la qualité des produits agricoles en général.
Dans le livre que vous publiez...
Bonjour la vache, comment ça va? Elle est en pleine forme.
Mais elle n'est pas censée dormir avec nous dans le studio.
Non, on lui a dit de rester dans son coin. Elle s'appelle Clochette, elle est très sympa.
Dans le livre que vous publiez aux éditions Ouest France, Une vache ne me fait pas peur, j'ai été élevée à la campagne. Visage d'une France rurale, Rosine Lagier, vous reproduisez, c'est génial, il y a des facsimilés, et notamment une publicité qui vante les bienfaits des plaques éternites. Ça servait à quoi? C'était pour les animaux, ça?
Alors, on est tout à fait dans la période où on modernisait, où on lançait des matériaux nouveaux. Et éternite, c'était tout simplement une grande marque d'amiante. C'était tous les préfabriqués que l'on trouvait. Donc, pour moderniser, on innovait dans des poulaillers, dans des clapiers, dans des porcheries qui étaient faites en plaques éternites. Et c'était vraiment le top du top.
Ah bien, donc, ce qu'on retire aujourd'hui dans les immeubles, l'amiante, à l'époque, c'était le progrès.
Ah oui. En 1928, on trouve des publicités extraordinaires dans toutes les revues agricoles.
Vive éternite, la lutte contre le taudis. C'était ça voilà. Le slogan, Thomas. Oui, on ne dit plus ça aujourd'hui pour l'amiante.
Non, tout à fait. Il y a aussi les farines animales qui apparaissent à cette époque-là, c'est ça?
Oui, c'est une époque où on cherche pour produire plus, que ce soit en agriculture ou dans l'élevage. Et les agronomes se penchent sur la productivité, la production, donc comment les vaches peuvent donner plus de lait, comment les porcs, les brebis peuvent grossir plus. Et on tente tout. On a fait des aliments à base de sucre, de déchets, de sucreries, suite aux betteraves à sucre et aux sucreries. Donc on donnait beaucoup de sucre, ensuite on a donné beaucoup de sel, on a tenté, on a donné du vin rouge. Puisque le vin était censé être était considéré pour les gens comme un dopant, comme un reconstituant. Il faisait partie d'ailleurs des salaires à l'époque.
Donc il y avait des vaches qui titubaient dans les champs.
Donc on tentait
c'est
de
dans le studio par exemple.
Élevé au vin rouge, oui, c'est ça.
Donc on a tenté de donner du vin, de l'alcool aux animaux, et puis on a tenté bien sûr de donner des farines animales. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là les villes ont beaucoup grandi, les abattoirs n'étaient pas préparés pour absorber toutes les bêtes qu'il fallait tuer pour nourrir la population grandissante des villes, et on a cherché comment utiliser les déchets des animaux, et le meilleur moyen, c'était de faire des farines animales, et les publicités sont extraordinaires. C'était donner des farines à vos canards, vous allez voir la production de duvet, donner des farines farine aux poules, elles vont pondre, mais c'est formidable. On donnait des farines animales aux chiens, aux porcs.
Et bien aux humains aussi, tant qu'à faire.
Non, on n'en est pas arrivé là, mais.
Pas encore.
On est arrivé à la vache.
On regrette. Voilà. La vie à la campagne au début du siècle dernier. On continue de vous la raconter dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend. Tous les petits oiseaux nous accompagnent. On va se payer des bons temps.
Avec Charlotte Julien, comment vit-on à la campagne dans les années 1900? On est curieux ce soir de cette France rurale, grâce à Rosine Lagier. Alors, on va parler des enfants, tiens. Comment ils vivent, les enfants français, à la campagne au début du XXe siècle? Ils sont dehors tout le temps?
Alors, ils sont dehors tout le temps. Dès l'instant où ils peuvent marcher, ils passent leur temps dehors, à gambader en toute liberté autour de la ferme. À partir de 4 ans, eh bien, leurs amis, ce sont les animaux. Mmh. Et à partir de 8 ans, la vie se répartit entre la scolarité et les travaux de la ferme. Une scolarité, quelquefois, qui est entrecoupée avec des travaux très prenants. L'absentéisme est très fort, par exemple, au moment des foins, où on fane, où on rentre le foin, surtout quand l'orage gronde. Donc, les enfants ont une scolarité vraiment très, très épisodique.
Oui, quand l'institutrice arrivait dans un village, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Elle était vue d'un drôle d'œil souvent par les parents agriculteurs, paysans.
Oh, je ne pense pas.
Il y a eu des bagarres dans certains villages.
Il y a eu des bagarres, mais enfin, il y avait un respect quand même. Il y avait un respect entre le curé, le maire, l'institutrice et le médecin. Ce sont quand même des personnalités que l'on respectait. Il y avait quand même un respect. Bon, c'est sûr que l'instruction...
Elle prenait de la main-d'œuvre, hein, l'institutrice, avec l'école.
Oui. Et j'ai un exemple à vous citer. En 1860, les frères Goncourt, quand même Goncourt qui représente la culture, les frères Goncourt avaient dit à cette époque, avaient même écrit à cette époque que l'éducation détruisait la race des laboureurs et par conséquent l'agriculture. Donc c'est quand
les
même
frères
voilà, on les agriculteurs, en fait, les paysans étaient faits pour cultiver la terre, ils en savaient bien assez pour cultiver la terre. Donc en 1860, c'est ce qu'écrivaient les frères Goncourt.
Au début du XXe siècle, à l'école, on appelle ça dans les campagnes, on appelle ça l'écolage, Rosine Lagier. C'est une expression consacrée. Non, on ne dirait pas.
C'était la colle du soir.
C'est votre visage.
Si vous êtes sur RTL.fr, il y avait une surprise. Je ne sais pas d'où est sorti cet écolage. Un collage entre une vieille interview et celle-là, peut-être.
Non, c'était une réminiscence. Je me rappelais de ce mot, l'écolage, aller à l'école, mais je me trompe peut-être.
C'est en Bretagne uniquement qu'on dit ça.
Non, mais vous allez rire, mais on a pas mal d'expressions à nous en Bretagne, en effet.
Comme dans toutes les régions.
Que j'ai ramené à la capitale, je suis désolée.
Non, mais moi j'ai ramené celle de Bordeaux, vous savez.
C'est bien. Les enfants vont surtout à l'école l'hiver, c'est ça? C'est parce que l'été ou
l'hiver, il y a moins de travaux. Donc les enfants peuvent plus aller à l'école, sauf encore quand il y a de la neige, hein, et que les chemins étaient impraticables. Mais les enfants allaient surtout à l'école l'hiver, et encore que, ils réparaient aussi avec les parents les paniers d'osier pendant les veillées. Ils terminaient les sabots, ils faisaient les sabots. Vous parliez de la Bretagne, voilà. Il y avait beaucoup d'enfants qui aidaient les parents sabotiers l'hiver. Il
faut dire quoi, que les souvent... jeux pour les enfants, pardon, je vous ai interrompu. C'était quoi les jeux des enfants là?
Les jeux, alors c'était le système D.
Qui sont noyés de cadeaux à Noël, c'était quoi les jeux à l'époque?
Alors à la campagne surtout, les jeux c'était le système D, c'était l'imagination. Donc avec une planche et de la ficelle, on faisait un chariot. Avec un petit paquet de chiffon, on arrivait à faire 10 poupées que l'on remplissait avec de la sciure. Mais les enfants s'amusaient quand même beaucoup. Avec les animaux, dans les ruisseaux, ils faisaient des petits moulins. Donc, ils étaient très inventifs. Mais c'est vrai que la vie n'était pas du tout pareille. On a l'impression de reculer de 200 ans quand on voit la vie en 1900, tout simplement.
La vie, pour les écoliers en 1900, au début du XXe siècle en tout cas, il y avait un journal pour eux, c'est le Petit Français Illustré. On en découvre une reproduction dans votre livre Visage d'une France rurale aux éditions Ouest-France. C'était un journal destiné à qui ? Aux parents ? Aux enfants ?
Plutôt aux adultes qu'aux enfants. Les enfants avaient très peu de livres, comme ils avaient très peu de jouets, comme à Noël, par exemple, c'était une orange, la clémentine, quelques bonbons, et c'est tout. Les jouets, il y en avait très peu, les livres, très peu aussi. Il faut dire que dans les campagnes, comme on disait tout à l'heure, très peu de personnes allaient d'une façon régulière à l'école. Donc la lecture ne faisait pas partie de la vie quotidienne comme aujourd'hui elle peut l'être.
Alors ce Petit Français Illustré, c'était un journal pour les parents, pour donner des idées d'éducation, pour encourager les parents à mener leurs enfants à l'école ?
C'était déjà un journal pour une classe sociale, on va dire, déjà un petit peu plus élevée, un petit peu plus instruite.
Alors il y a les enfants qui travaillaient évidemment, mais il y a les femmes aussi qui s'adonnaient à la lessive.
C'est
une activité quotidienne, mais il y en a beaucoup qui la font encore chaque jour. Hein,
moi aussi. Hein.
Ah bon ?
Je sais faire tourner une machine à laver.
Ah c'est
dingue.
Bien, mais vous n'allez pas au lavoir, Thomas Hugues.
Ah ben et vous allez au lavoir ?
Non, mais mes grands-parents.
J'aimerais bien voir ça.
Allés.
Faites une photo la prochaine fois.
Oui, promis. J'ai visité le lavoir où mon arrière-grand-mère lavait les vêtements de ma famille bretonne.
Il y avait un partage des tâches.
Une sacrée activité, ça.
Oui, il y avait un partage des tâches évidemment.
Il y avait un partage des tâches. Alors les femmes, c'était surtout les volailles, la basse-cour, aller vendre au marché, acheter, s'occuper du quotidien, préparer la nourriture pour les gens comme pour les animaux, hein, préparer pour le porc, pour la volaille. Et puis, il y avait bien sûr la lessive. Il faut penser que la lessive, comme vous le disiez tout à l'heure, se faisait au lavoir. Mmh. Par n'importe quel temps, y compris quand il neigeait et quand il y avait de la glace. Donc il n'y avait pas de machine à laver, pas d'eau chaude au lavoir. Donc on évitait de faire trop souvent la lessive, c'était à peu près une fois par mois. Donc le trousseau, ce que l'on appelait le trousseau, c'est-à-dire qu'au moment où la femme allait se marier, elle arrivait avec du linge de maison en suffisance. Il y avait 2 douzaines de draps, de thé, et on ne changeait pas le linge trop souvent non plus. Mmh. Et donc une fois par mois, on faisait la lessive, et les femmes étaient redoutées à ce moment-là parce qu'elles faisaient et défaisaient l'histoire du village, et qui en faisait les frais, surtout les hommes.
Ben voilà, et ça n'a pas trop changé.
Non,
ça,
quand
tiens.
On fait des lessives chaque jour.
Voilà, on discute. Allez, ben maintenant c'est au lavomatique, hein. C'est pareil. Allez, on a bien travaillé, on mérite un bon casse-croûte. Mais qu'est-ce qu'on mangeait dans les campagnes en France au début du XXe siècle ? Ben, on va vous répondre dans un instant, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Fiers d'être curieux avec RTL.
À la campagne,
jusqu'à 22h,
quand on est citadin.
RTL.
À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la France des campagnes de nos grands ou arrière-grands-parents que l'on découvre ce soir dans La Curiosité avec l'historienne Rosine Lagier. Alors, on a évoqué le travail au champ, les machines, les tâches des hommes, des femmes et évidemment des enfants. Et maintenant, allez, le meilleur moment de la journée, le repas.
Ah, enfin !
Ah bah,
on se repose, on peut grignoter, casser la croûte.
C'est quoi les horaires des repas ? Il y a plusieurs repas par jour ?
Alors la vie des familles et donc les repas étaient rythmés en fait par le coucher, le lever et le coucher du soleil. En été, on se levait en même temps que le soleil, et on se couchait quand le soleil se couchait, parce que déjà toutes les fermes n'avaient pas l'électricité aussi, et puis les travaux des champs étaient très prenants, on était très fatigués. L'été, on amortissait la belle saison, et donc il y avait plusieurs repas. On commençait sa journée vers 4h du matin, 4h du matin avec un déjeuner pratiquement. On prenait de la charcuterie, un verre de vin. On allait s'occuper des animaux. On commençait les travaux de la ferme. Vers 8h, il y avait un autre casse-croûte pratiquement aussi conséquent, avec un petit peu de soupe, des charcuteries, encore un petit peu de vin. Et puis, après, c'était vraiment le départ pour les champs, les gros travaux des champs, les labours, les semailles, au fur et à mesure que l'on avançait dans les saisons.
Bah,
et
le déjeuner... Rosine Lagier, on se couchait à midi, alors, parce que...
Le déjeuner se prenait...
Trois repas et tout ce travail-là, c'est incroyable.
Le déjeuner se prenait dans les champs. Donc c'était la fermière ou une servante qui portait le panier d'osier avec de nouveau les cochonailles, le fromage, encore un petit peu de vin,
de
la piquette.
Est-ce qu'il buvait de l'eau, Rosine Lagier, quand même?
Oui, il buvait quand même de l'eau. Ah, et il buvait
quand
beaucoup.
Il pleuvait.
Il prenait beaucoup d'eau, mais surtout beaucoup de piquette.
C'est quoi la piquette?
C'est un mauvais vin, non, c'est ça?
Alors, la
aujourd'hui,
piquette,
quand on dit c'est de la piquette, c'est que c'est du mauvais vin?
Eh bien, c'est presque ça, voilà. Donc, quand on pressait le raisin, tout le mou, les résidus, on les enfermait dans des gros tonneaux jusqu'à ce qu'ils fermentent. Au bout d'un certain temps, quand la fermentation était faite, on les remplissait d'eau. On recouvrait les mares, le mou avec de l'eau. On laissait à nouveau fermenter environ une vingtaine de jours et on soutirait par le bas un tonneau de 225 litres de mares, de mou et d'eau donnait à peu près 15 litres de piquette par jour. Donc on tirait par le bas la fameuse piquette. Donc c'était une boisson assez désaltérante qui était un peu piquante, qui était légère, puisque bien sûr c'était les résidus de vendanges que l'on avait mis à fermenter. Et pendant 20 jours, voilà, on tirait en bas cette macération d'eau et de mou, et on remettait en haut de l'eau jusqu'à ce que la piquette n'ait vraiment plus de saveur.
Donc c'était assez peu alcoolisé, en fait.
C'était assez peu alcoolisé, c'était fermenté, c'était piquant, c'était vraiment pas bon à boire. D'où maintenant, quand on traite un vin de piquette, ce n'est pas forcément
c'est
un compliment.
Pas un compliment, ça c'est clair. Mais Rosine Lagier, avec ses travaux dans les champs, cette piquette qui vous ouvrit l'estomac, c'était quoi l'espérance de vie dans les campagnes françaises des années 1910, 1920? Mais
disons que les gens étaient usés quand même de bonne heure, hein, puisqu'on disait qu'il n'y avait pas forcément le chauffage dans les pièces. Donc l'hiver, on se mettait tous au coin du feu, donc il y avait quand même le froid, les travaux usant dans les champs, donc les gens étaient usés. À 50 ans, les gens étaient vraiment usés.
J'aimerais que Sidonie ne fasse aucune réflexion à ce moment-là.
Pourquoi?
Je sais pas.
Donc, l'espérance de vie, c'était quoi, votre âge?
J'ai senti venir un truc, là.
Une petite cinquantaine d'années.
J'y cours vers les 50 ans. Bon, allez.
Et les personnes âgées restaient au coin du feu dans les maisons, mais à 70 ans, 80 ans, c'était déjà une belle espérance.
C'était rare.
Voilà, c'était rare.
Alors, pour tenir le coup, il y a la piquette, bien sûr, mais le cochon, ça, c'est vraiment l'animal choyé de la ferme?
Absolument, c'était le roi de la ferme. C'était monsieur. C'était mon camarade. On l'appelait, il avait ses surnoms. C'était l'animal qui allait se consommer pendant pratiquement toute une année. On le tuait à la mauvaise saison. Donc, il était engraissé avec les épluchures que la fermière mettait à cuire avec du son, avec les eaux grasses de la vaisselle, puisqu'il n'y avait pas le détergent comme maintenant dans les vaisselles. Donc c'était monsieur qui en profitait. Et donc on engraissait le cochon jusqu'au mois de novembre, décembre.
Et là c'est là qu'apparaît le seigneur
S-A-I. Le seigneur S-A-I. Voilà.
Le seigneur de cochon.
Qui venait saigner le cochon. D'ailleurs, c'était une époque où je me souviens, étant petite fille, quand on traversait les villages, on se bouchait les oreilles parce qu'on entendait, excusez le terme, mais vraiment gueuler les cochons que l'on saignait. Et donc, on préparait les cochonailles, on préparait le boudin.
Ils sont en train d'entrer dans le studio, là, les cochons. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Rosine Lagier.
Une histoire encore passionnante à lire, Rosine Lagier, dans Visage d'une France rurale, la vie de nos campagnes en 1900. C'est aux éditions bretonnes, Ouest-France. Ne vous moquez pas de moi, je n'ai pas vu de piquette.
Vous écoutez RTL.